Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l'évangile de Marc. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ian. Oui, nous sommes en effet au chapitre 6 et nous allons lire aujourd'hui le récit où Jésus envoie ses disciples évangéliser la région autour d'eux. Écoutons la lecture de ce passage avant de voir ce que nous pouvons en apprendre.
Jésus appela les 12 et les envoya en mission deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit « Ne prenez ni provisions, ni sacs, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile.
La première chose qui se prend dans ce texte sont les directives pratiques que Jésus donne à ses disciples. Ils ne doivent rien emporter avec eux, si ce n'est le strict minimum. Devons-nous aussi renoncer à tout ce que nous possédons quand nous servons le Seigneur?
Non, pas du tout. Cette directive s'applique seulement aux disciples dans ce contexte très particulier. Le Seigneur voulait que dans un premier temps, les disciples proclament l'Évangile uniquement aux Israélites, que dans les régions juives avoisinantes. Matthieu l'explique clairement quand il raconte le même épisode dans son Évangile. Jésus, en effet, leur dit « N'allez pas vers les non-juifs, mais seulement vers les brebis perdues d'Israël. »
Je comprends, et comme selon la culture de l'époque, l'hospitalité était très importante. Les disciples pouvaient être sûrs qu'où qu'ils aillent, quelqu'un les accueillerait, au moins une nuit ou deux. Jésus leur demande donc de s'appuyer sur cette certitude.
C'est exact.
Mais pourquoi donc cette contrainte géographique? L'Évangile n'est-il pas pour tout le monde, et pas seulement pour les Juifs?
Absolument. Cependant, le Seigneur Jésus était le Messie attendu par les Juifs. Alors il est venu d'abord vers eux. Dieu a choisi les Juifs pour être son peuple, dans l'Ancien Testament, et c'est vers eux en premier qu'il a voulu se révéler. C'est ce que Paul explique aux Romains, par exemple, au chapitre 3, verset 2. C'est d'abord aux Juifs que les paroles de Dieu ont été confiées.
Mais après sa résurrection, le Seigneur a donné des instructions bien différentes, car aujourd'hui, nous devons proclamer l'Évangile dans le monde entier.
Oui, bien sûr. Jésus dit dans Matthieu 28, « Allez et faites des disciples de toutes les nations. » Et au début du livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus a fixé le programme pour l'évangélisation de la planète, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le reste du monde. On constate que là aussi, le message a été proclamé aux Juifs d'abord. Et aujourd'hui encore, nous devons prier pour eux.
Mais pour en revenir à notre texte, puisqu'il s'agit d'une situation très particulière, quelles leçons pouvons-nous en tirer?
Il y en a au moins trois. La première, c'est que le message fondamental de l'Évangile est un appel à la repentance.
La repentance, c'est ce que la traduction de la Bible que nous avons lue appelle le changement radical.
Exactement. Et Jésus a commencé son ministère en annonçant ce même message. Il déclarait « Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle ». L'acte de croire en Jésus implique un changement radical de vie, ou la repentance. Cela signifie que l'on n'est plus la même personne. C'est-à-dire que l'on ne vit plus pour soi-même, mais pour le Seigneur, et que l'on est prêt à le servir selon sa volonté. De plus, on change d'attitude envers les autres. On commence à les aimer, comme le Seigneur nous a aimés, même s'ils nous persécutent. Puis on ne veut plus pécher contre le Seigneur. Bref, on est vraiment une nouvelle personne. On a changé radicalement. C'est important de le rappeler, car parfois on rencontre des personnes qui croient être chrétiennes, et même qui vont à l'église depuis longtemps. Mais en réalité, on constate qu'elles ne sont pas différentes des non-chrétiens. Elles ne se sont pas repenties. Elles n'ont vécu aucun changement.
Donc être chrétien, ce n'est pas simplement une question de croire à certaines doctrines ou vérités. Mais il faut aussi changer pour devenir une nouvelle personne, pour vivre à la lumière de ce que nous croyons.
Oui, c'est juste, le Seigneur Jésus veut changer notre cœur. Et puis la deuxième leçon importante trouvée dans ce passage, c'est que le Seigneur ne veut pas simplement nous pardonner nos péchés, et c'est déjà beaucoup, mais il veut aussi nous libérer du mal sous toutes ses formes. Le verset 13 est significatif. Il chassait les démons et guérissait les malades. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut restaurer sa création. Cela implique le pardon des péchés de ceux qui croient en lui, mais Dieu veut aussi effacer les conséquences du péché, en bannissant la mort et la maladie, par exemple. Bien sûr, cela ne se réalisera pleinement que quand le Seigneur reviendra pour établir son règne. Mais dès maintenant, à travers la proclamation de l'Évangile, Jésus guérit des malades, il réconcilie des familles. Bref, il répare les effets du péché.
Le verset annonce aussi qu'il chasse des démons.
Oui, c'est important, car la Bible nous enseigne clairement que nous avons un puissant ennemi spirituel, Satan et les esprits mauvais qui le servent. La proclamation de l'Évangile implique aussi la défaite de Satan et la libération de tant d'hommes et de femmes qui l'oppressent. Quand le Seigneur reviendra, Satan sera définitivement vaincu. C'est une grande source de joie et d'espérance de savoir qu'un jour, le Seigneur vaincra tous ses ennemis, Satan, la mort et le péché.
Oui, c'est vrai. Et enfin, quelle est la troisième leçon que vous voudriez souligner?
C'est en fait un appel à faire confiance au Seigneur. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus a demandé aux disciples de prendre avec eux uniquement le strict minimum. Seulement un bâton, pas de nourriture, pas même de vêtements de rechange. Comme vous l'avez déjà mentionné, les disciples devaient tenir compte du fait qu'ils rencontreraient tôt ou tard une personne qui leur donnerait de quoi manger et les hébergerait pour la nuit. Mais plus que cela, ils devaient compter sur le Seigneur et posséder la certitude qu'il placerait ces personnes sur leur route. Ils devraient croire en son amour pour eux et être certains qu'il prendrait soin d'eux, ses serviteurs.
Effectivement, c'est difficile, quand on y pense, de partir comme ça, sans savoir exactement qui nous accueillera et où. Les disciples devaient mettre leur foi en Jésus, convaincus qu'il pourvoirait à leurs besoins.
Oui, et je crois qu'il y a là une leçon pour nous aussi. Même si le Seigneur ne nous demande pas forcément d'accomplir la même chose. Car pour suivre le Seigneur Jésus, il faut lui faire confiance quant à nos besoins physiques et spirituels. Il faut croire qu'il prendra soin de nous. Le Seigneur sait bien de quoi nous avons besoin, comme il est dit dans Matthieu au chapitre 6. Jésus nous demande de chercher d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus.
Stéphane, merci une fois de plus de nous avoir fait part des leçons principales qui se dégagent de ce passage.
Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui, pour la suite de cette série sur l'Évangile de Marc. Et sans tarder davantage, nous passons à notre méditation biblique. Après la lecture du psaume 12, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviendrai pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. tout autour, des méchants rôdent et la corruption domine parmi les humains.
Dans son épître, Jacques décrit les dégâts causés par la langue. En langage très imagé, il écrit « Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. » Le psaume lu compare les paroles des hommes à celles de Dieu. Le psalmiste se lamente du mal causé par leurs propos destructeurs. Il décrit une société où l'on y parle trop souvent pour tromper les autres, pour manipuler, pour se mettre en avant et dominer. Bref, on utilise des mots pour obtenir ce que l'on veut et souvent en faisant du mal aux autres. Le psalmiste met ainsi le doigt sur la corruption et la malhonnêteté, l'hypocrisie et le manque d'intégrité. Malheureusement, dans un tel monde, il est difficile de faire confiance aux autres et l'on devient soupçonneux. Qu'en est-il de votre contexte? Cette description d'un monde mal intentionné correspond-elle à votre société? Qu'en est-il de vous? Vos paroles sont-elles dignes de confiance ou alimentent-elles la corruption? Toutefois, dans un tel monde, le psalmiste veut surtout mettre en valeur les paroles de Dieu, paroles qui se trouvent dans le livre que nous appelons la Bible. L'auteur du psaume affirme que les paroles de Dieu sont pures. Autrement dit, elles font du bien et elles sont vraies. Certaines personnes peuvent nous parler avec gentillesse et nous dire la vérité, mais leurs motivations ou intentions sont intéressées. Les paroles de Dieu, quant à elles, ne sont pas polluées. On n'y trouve pas ce mélange de bien et de mal. Les paroles de Dieu sont pures, entièrement dignes de confiance. Le psalmiste affirme aussi que Dieu tient parole. Une fois de plus, les gens ne tiennent pas toujours leurs promesses. Nous ne savons pas si nous pouvons compter sur leurs paroles. Dieu, lui, est fidèle. Ce qu'il annonce, il l'accomplira un jour. Alors, dans un monde où les paroles trompeuses et décevantes pullulent, faisons confiance à celles que notre Dieu et Sauveur déclare.
Merci Antoine pour ces rappels importants. Antoine sera de retour la prochaine fois pour nous faire part de ses réflexions sur un autre psaume. En attendant de vous retrouver, chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.